Le club notarial immobilier par les notaires du Grand Paris.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Notarial Immobilier. On est ravis de vous retrouver en direct, donc je vous préviens, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Le Club Notarial Immobilier, c'est chaque trimestre interviennent des acteurs de premier plan, des acteurs du secteur, pour faire le point sur le marché immobilier francilien. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va analyser la situation du marché immobilier francilien, justement, avec quatre experts, quatre invités, qui m'accompagneront. Il y aura évidemment Pierre Tarade, le président de la Chambre des notaires de Paris. Et puis, on fera un point alors, donc, sur la conjoncture, hein, l'état des lieux du marché immobilier. On verra la construction qui est en crise partout en France et notamment en Île-de-France. On verra aussi le ressenti des Franciliens, les Franciliens qui continuent d'avoir envie de devenir propriétaires. L'envie est là. Et puis, on parlera évidemment de ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Voilà, on terminera par une note positive, j'espère, les propositions de nos intervenants. Pour donc ce club notarial, j'accueille Pierre Tarade, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le président de la Chambre des notaires de Paris. On va commencer avec vous dans quelques instants, justement, avec les chiffres que vous avez dévoilés ce matin en conférence de presse. Les chiffres donc de l'année 2024 et du quatrième trimestre 2024.
C'est ça.
À côté de vous, Stéphane Glucksmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire général de la FNAIM Grand Paris, donc la Fédération Nationale de l'Immobilier. Vous venez avec cette casquette, mais vous êtes également, je vais quand même le dire, directeur général adjoint de Citia Immobilier, un grand monsieur de l'immobilier. À ma gauche, bonjour, vous êtes Bruno Alloin, qu'on a déjà reçu d'ailleurs. Vous êtes un habitué du club notarial.
Un habitué peut-être pas, mais en tout cas, je suis déjà venu. Ouais,
voilà, donc vous êtes président, co-président de la FPI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers Île-de-France. Et on va faire un point avec vous justement sur la situation dramatique que sont en train de vivre les promoteurs. Et puis, il y aura aussi Alexandre Bouton, qui arrive tout juste, architecte et conseiller ordinal au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, parce que c'est important d'avoir aussi le ressenti, l'expertise des architectes. Bonjour Alexandre, et merci d'être là, parce que vous venez d'une autre réunion hyper importante. Et voilà, vous êtes architecte, urbaniste, fondateur d'Urban Act. Bonjour et bienvenue, on vous laisse reprendre votre souffle. On commence tout de suite avec un point conjoncture, les chiffres de l'année 2024 avec Pierre Tarade. Et il y a des slides.
Il y a des slides.
Alors je vous laisse la main.
On va commencer par la première slide. Alors, vous avez dit qu'on allait terminer par une note optimiste. On va peut-être commencer par une note pas si pessimiste que ça, puisque vous avez ici le résumé des quatre trimestres des trois dernières années.
Oui.
Et vous voyez que, évidemment, on traverse une crise, tout le monde le sait. On voit la dégringolade du nombre de transactions au cours des trois dernières années. On voit surtout, sur la fin, que cette dégringolade s'arrête et que progressivement, la décrue s'est ralentie au point qu'aujourd'hui, on est probablement arrivé, quand on compare le quatrième trimestre 2024 au quatrième trimestre 2023, on arrive à une baisse de moins 2%, c'est-à-dire en fait à la stabilité. Et c'est notre conviction, c'est que nous sommes arrivés, alors je suis optimiste puisque je veux dire qu'on a touché le fond, c'est-à-dire qu'on ne devrait plus baisser davantage.
D'accord.
On est à l'étiage, on va le voir sur la slide suivante, on est au niveau du pire de 2008, de la crise, de la précédente grande crise qu'on a connue.
Oui.
Donc on est probablement au plus bas. Ah ben, je vois qu'on a déjà la slide en question. Donc, et quand je dis qu'on ne va pas baisser davantage, c'est aussi on sait l'expliquer. On sait expliquer d'abord l'origine de la crise. L'origine de la crise, vous savez, c'est ce choc des taux d'intérêt qui ont monté d'un coup très fort, très haut, à un moment où on se posait des questions sur l'inflation, et à un moment également où les banques étaient amenées à moins prêter. Donc tout ça sont des facteurs qui sont derrière nous. Les taux ont clairement baissé, l'inflation s'est tassée, les banques aujourd'hui prêtent, l'accès au crédit est clairement plus facile aujourd'hui. Les prix également, on le voit pour le coup sur la slide que vous avez sous les yeux, les prix également ont baissé, peut-être moins qu'on ne pouvait l'attendre, mais ils ont baissé aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les acquéreurs, les candidats à l'acquisition, ont retrouvé du pouvoir d'achat. ce qui était l'origine de la crise. Donc nous avons des raisons de penser que effectivement la situation actuelle, alors ça va plus baisser. Est-ce qu'on aborde un plateau ou est-ce qu'on va rebondir? Ça, c'est peut-être un petit peu tôt pour le coup pour le pronostiquer. Alors si on reste sur cette slide-là, là vous avez le marché en Île-de-France, tout produit confondu, maison, appartement, etc. Vous allez voir les autres slides qu'on verra ensuite, qui ont à peu près le même profil. On voit cette baisse des volumes, c'est la partie basse de la slide, cette baisse de volume très importante au cours des dernières années, et le ralentissement de la baisse et cet atterrissage en douceur auquel nous arrivons maintenant. On voit aussi quand même qu'on est arrivé très bas, puisque je disais on est arrivé au bas. Vous voyez la 2008, c'est le précédent creux sur le slide. On a constaté en Île-de-France en 2024 que 100 000 ventes. Ce qui est extrêmement peu, 100 000 ventes de logements. Donc on est sur un point bas historique.
Historique, c'est-à-dire qui c'est jamais arrivé.
On est un peu en dessous des volumes de 2008. Et on voit aussi, ça c'est la courbe du dessus, la courbe supérieure, on voit aussi la baisse des prix qui a suivi le mouvement, pas complètement, qui a commencé, d'ailleurs, la baisse a baissé, a ralenti un peu plus tôt que la baisse des volumes. Et on voit aujourd'hui que on arrive sur une situation à peu près de plateau. On atterrit en douceur et on se rend compte qu'aujourd'hui, les prix ont probablement cessé de baisser et les indications qu'on a pour la suite semblent montrer que le premier trimestre 2025 devrait rester sur un niveau assez étal de prix. Alors, si on regarde la slide suivante, ce sont les appartements en Île-de-France. Vous voyez, hein, elle ressemble beaucoup à la précédente. On a quand même encore une baisse de volume de 13% entre 2024 et 2023, une baisse annuelle, des prix qui baissent également. On est passé d'une baisse de 5,2% en un an au troisième trimestre 2024 par rapport à 2023, à une baisse de 2,9% au quatrième trimestre. Donc on voit vraiment le ralentissement assez clair maintenant de la baisse. Et d'après nos avant-contrats encore, on s'attend à ce que les prix restent stables sur Paris, sur l'Île-de-France, pardon, sur Paris aussi, on va le voir. Ensuite, la slide suivante, est-ce que c'est la bonne? Non, ça n'a pas marché, voilà. Ici,
les maisons.
Donc les maisons, c'est la même chose, hein, même profil, avec une baisse peut-être un peu plus rapide. Et par rapport à nos prévisions, pour le coup, on s'attend non seulement à ce que les prix ne baissent plus, mais peut-être même à ce qu'ils rebondissent un petit peu au printemps, avec l'effet saisonnier. Je visite la maison, le jardin, tout ça.
D'accord.
Il peut y avoir un petit effet saisonnier de remontée des prix. Et si on termine avec une dernière slide, vous voyez que le profil est toujours à peu près le même. Ça, ce sont les appartements parisiens. Alors, l'amplitude peut-être des variations est moins nette parce que sur Paris, le phénomène de ralentissement de la baisse a commencé plus tôt. Donc forcément, les variations sont moins accusées. Mais bon, on a des prix qui ont baissé. Aujourd'hui, on est à 9 500 € du mètre carré. La moyenne globale, c'est 9 500 € du mètre carré. Et on s'attend à ce que cette moyenne reste stable dans les mois qui viennent. Donc voilà, si on peut faire une petite synthèse de tout ça, c'est que les éléments sont quand même encourageants pour dire que les acquéreurs immobiliers ont reconstitué, peut-être pas tout, leur pouvoir d'achat immobilier des années folles, des années 2021-2022, mais ils ont reconstitué du pouvoir d'achat immobilier. Les taux ont baissé, les prix ont baissé et se stabilisent. Donc, on peut penser que les éléments sont en place pour une reprise du marché. Après, il y a des phénomènes d'attentisme qu'on peut très bien comprendre avec des taux qui ont peut-être vocation à encore baisser. Je ne sais pas si ça va...
Je pense
qu'il faut arrêter d'y penser, mais voilà.
L'incertitude
politique, l'incertitude géopolitique, une loi de finances qui n'a pas forcément envoyé les signaux qu'on aurait pu espérer pour ce secteur de l'activité. Mais peut-être aussi, et c'est ma conviction, un attentisme qui n'en finit pas Et il y a un moment où il faut arrêter d'attendre. Quand on achète en Ile-de-France, en général, c'est pour se loger soi-même. Oui. Et quand il manque une pièce à son appartement ou quand on habite trop loin de son bureau, il y a un moment où il faut comparer ce besoin-là à ce qui fait qu'on attend. On attend peut-être une baisse de quelques dixièmes des taux d'intérêt, mais quand on va financer ça sur 25 ans, est-ce que franchement ça va changer la vie ? Est-ce que ça change pas plus la vie d'avoir une pièce qui manque ou d'avoir trop d'heures de trajet tous les matins.
Globalement, quand vous parlez des prix qui baissent, qui ont baissé, oui. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont continuer à baisser, on est d'accord, c'est sur, en moyenne sur l'Île-de-France.
Hein. C'est en moyenne sur l'Île-de-France. Ouais. Bah là, la dernière slide qu'on avait, c'était sur Paris, mais effectivement, en moyenne sur l'Île-de-France, les prix ont baissé, oui.
Alors, dans quelques minutes, on va faire le point avec vous, Bruno, pour les chiffres hein, côté FPI, donc côté promotion immobilière. Juste avant, j'aimerais avoir un petit retour peut-être de Stéphane Glucksmann, le retour terrain, j'ai envie de dire, des agents immobiliers en Ile-de-France. Est-ce que vous êtes d'accord avec... vous êtes d'accord. Est-ce que vous constatez, en tout cas, quel est votre ressenti par rapport à ces chiffres des notaires ?
Alors d'abord, je suis complètement d'accord avec mon voisin. Déjà, ça part bien. Ce que nous ressentons, effectivement, on est un peu en amont de ce que vivent les notaires, puisqu'on est avant l'avant-contrat. Oui. On ressent, effectivement, un marché qui tend à se détendre un petit peu. Alors, ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas ce qu'on a connu, ce n'est pas ce qu'on espère, mais le marché tend à se détendre. Il y a des acquéreurs, il y a des vendeurs. Alors, vous savez que dans la transaction, vous avez des ventes que je qualifie d'obligatoires.
Contraintes, on va dire.
Contraintes. Ouais. Les mutations, la mobilité, les décès, les séparations.
Les naissances, pour avoir un peu de positif.
Les naissances, et j'allais conclure par ça, les naissances qui font qu'il y a des ventes contraintes. Donc, il y a toujours un volume. Bon, après, il faut qu'on ait en face des acquéreurs. Et surtout, ce qu'on a vécu ces dernières années, vous l'avez dit, ben, il faut qu'on finance ces acquéreurs. Il faut qu'on leur trouve de quoi devenir... entre guillemets, sexy pour les banquiers, et de nouveau retrouver de quoi financer leurs projets. Ce qu'on vit, c'est que le marché parisien est un marché qui est encore quand même bien tendu. Mm-hmm. Parce qu'on a des prix, et qui dit prix dit volume, dit gros financement. Donc là, on va retrouver des gens qui ont déjà de l'apport. Mm-hmm. Mais sur des surfaces relativement réduites. Le bel appartement familial parisien, il n'est pas abordable par le parisien classique, celui qui, aujourd'hui, prend son métro, son RER, voire le train pour venir travailler.
Donc, ceux qui travaillent à Paris, en fait.
Ceux qui travaillent à Paris, c'est difficile de s'y loger.
De se loger à Paris.
Voilà. Donc, on sent un déport vers, même plus la première couronne, mais plutôt vers la seconde couronne, qui, là, semble... avoir un certain regain, on semble avoir de la demande parce que, effectivement, appartement ou maison, spacieux, jardin, des choses plus agréables, confort de vie, et puis des contraintes parfois environnementales qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Ce n'était pas un sujet. Vous posiez la question à 10 acquéreurs, c'était le dernier point. Oui, l'environnement aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis, la naissance du télétravail, tout ce qui... Le post-Covid a fait aussi modifier ses besoins. Donc ça, on sent que ça bouge un peu plus. Donc, s'il y a une meilleure demande sur la Grande Couronne, je crains, c'est l'effet de l'offre et de la demande, que demain, on retrouve une petite tension sur les prix.
Ouais, ça va se reporter, en fait.
Ça va se reporter un petit peu. Mais ce ne sont pas les vases communicants non plus. Parce que le pur Parisien qui a les moyens de vivre à Paris ne va pas aller habiter en grande banlieue.
En tout cas, concernant l'ancien, on viendra au neuf après, on est d'accord pour dire que la baisse des taux, c'est ça qui a débloqué le...
C'est ça qui a grippé le système, voilà. C'est ça qui tend à le débloquer un petit peu, mais c'est très fragile.
Oui, oui.
Mais aussi parce qu'on a été mal habitué.
Bien sûr, d'accord. Oui, on est à des taux autour de
1%. Il y a 15 ans, avoir 5% ou 7% d'intérêt, ce n'était pas quelque chose de choquant. Mais on s'est habitué à des moins de 1, 1, 1, 10... limite, quand tu avais 1,20, tu n'osais pas t'en vanter parce que tu avais l'impression d'être...
C'est vrai. Il y en avait qui avaient 0,90.
D'être, hein. Ouais, d'être un mauvais. Donc, avoir 3, 3,5. Aujourd'hui, on a
pas si mal,
les beaux dossiers à 3,2, on en trouve. Donc,
mais alors attention, parce que quand vous dites qu'on avait des taux à 15%, le prix du foncier était moins cher et les salaires...
Étaient beaucoup moins chers, étaient beaucoup moins élevés.
Oui, mais ils ont quand même moins augmenté que les prix du foncier. Hein, si vous voulez, il y a un décrochage à un moment. Oui. Hein. Alors, on va faire le point justement. Après, on fera le point avec les architectes, Alexandre. D'abord, Bruno, un point sur la promotion immobilière. Alors, la promotion, c'est différent. Oui. Pareil, il y a une crise sans précédent, mais là, ça s'arrange pas, on va dire. Enfin, il y a eu quelques mesures annoncées, on en parlera, ouais. Mais bon, pas autant.
Contrairement à l'ancien, ouais. L'ancien, c'est une offre qui rencontre un marché. La promotion neuve, tout au moins la construction neuve, c'est un foncier, un coût de construction, une réglementation, des honoraires, des contraintes, et on s'aperçoit que effectivement, dans la mécanique du neuf. On n'est pas du tout dans la même conception, genèse d'opération. Ce qu'on constate, nous, sur 2024, effectivement, c'est une année historiquement basse, puisqu'on a, par rapport à toutes les données qu'on a depuis plus de 30 ans à la FPI, on n'a jamais constaté aussi peu de réservations.
Donc vous avez des données depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais
eu
un...
Depuis plus de 30 ans, 2008 a été écrasé, parce que 2008, il y a eu un rebond 2009 qui a été aussi très très bon, mais 2008 a été écrasé. Bon, là on a vraiment une année horribilis sur l'année 2024 et... En guise de message d'espoir, je reprends quand même ce que vous avez dit, la baisse des taux va nous aider. Il y a quelques mesures donc qu'on évoquera. Ouais. Pour parler volume, on a la genèse de la crise, on la connaît en partie. Hein,
c'est parlez bien dans votre micro, juste désolé. Pardon,
genèse de la crise, on la connaît en partie. C'est effectivement la hausse des taux brutale. Ouais. Mais dans le secteur du neuf, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la réglementation qui est rentrée en ligne de compte. Il y a aussi les élus qui ont de moins en moins envie de construire sur leur commune. On a tout un tas de facteurs qui ont effectivement crispé... tendu ce marché, grippé ce marché. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un système multifactoriel. Pour parler de chiffres, puisqu'on est là aussi pour parler de chiffres, en mise en vente sur l'année 2024, donc je rappelle, nous, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a la première étape qui consiste à dire qu'il faut avoir les autorisations administratives. Une fois qu'on a les autorisations administratives, quand on a qualifié le produit, c'est-à-dire qu'on pense qu'il va rencontrer le marché, d'où une baisse très significative en 2022-2023 avec la hausse des taux qui faisait qu'on n'avait plus d'acquéreurs en face de nous.
Donc
Il n'y avait plus de demande, ouais. Donc il a fallu requalifier les produits. Quand on aura requalifié les produits, on met donc en vente. Donc la mise en vente, on est tombé à 9250.
Donc ça, c'est du jamais vu. Hein, c'est...
Mise en vente sur l'Île-de-France. 9250 mises en vente. Et on a fait 14 500 réservations sur une population de 12 millions, un peu plus de 12 millions de personnes, c'est ahurissant. C'est effectivement un constat qui est un peu dramatique, alors qui est dramatique dans ses effets, hein, parce qu'il y a des effets aussi de personnel. Hein, les promoteurs se sont restructurés, on a essayé de requalifier les opérations. Je pense que mon ami architecte à côté va aussi lui parler de son secteur qui souffre aussi de cette situation. On est effectivement sur des volumes qui sont inférieurs à 70% de ce qu'on a connu en 2019. On ne parle pas d'un temps préhistorique. Ouais. C'était il y a 4-5 ans. Donc, et alors, moi, le côté optimiste des choses, je l'aurais inévitablement, parce que comme je suis entrepreneur, par définition, il faut être optimiste. Mais par contre, on rentre dans une séquence politique qui va être compliquée pour nous. C'est-à-dire les élections municipales qui, effectivement, sur le 9...
Pourquoi ? Parce que expliquez peut-être à notre audience, parce que les maires, pour se faire élire, ils évitent les permis de construire.
On dit maire bâtisseur, maire perdante. Moi, c'est un peu la. En tout cas, c'est ce que les gens ne souhaitent plus qu'on densifie autour de chez eux. Bon, je sais pas. Alors, on est dans une région juste pour donner quand même quelques tendances et quelques chiffres qui permettent de voir ce qu'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 3% du territoire national. C'est 20% de la population. C'est 25% du produit intérieur brut. Et sur ces 3% du territoire national, donc un confetti, on concentre donc 20% de la population. Et sur ces 3%, il y a grosso modo 50% qui est dédié aux infrastructures. La part dédiée au logement, c'est 13% de ce territoire. Donc c'est ridiculement petit. Donc si on ne densifie pas, on ne pourra pas loger les franciliens. Donc ça, c'est juste des données factuelles. C'est pas une volonté de densifier pour densifier, c'est des données factuelles. Donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement par rapport à des élus qui ne veulent pas appliquer le règlement d'urbanisme qu'ils ont pourtant mis en place. Et donc, on est dans un urbanisme négocié. Donc, on y va, on négocie.
Vous négociez avec les élus.
Avec les élus.
Qui négocient avec les habitants.
Qui négocient avec leurs habitants, qui sont leurs électeurs, bien entendu. Ouais. Et donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde négocie avec tout le monde. Ce qui fait que ça crée à la fois de l'insécurité juridique, une insécurité économique, parce qu'on ne sait pas trop sur quelle base on va partir sur nos bilans. Et tout ça dans un. Alors, les élus, avant, commençaient, entre guillemets, cette réflexion, on va dire, 6-8 mois avant. Là, on est déjà dans la séquence.
Donc là, ça veut dire que les élections sont en 2026, donc dans l'année prochaine. Voilà. Là, vous sentez déjà un ralentissement
Depuis fin 2024, on a déjà clairement des gens qui nous disent « Bon, c'est bien, mais l'opération, si on peut la sortir après les élections, c'est mieux.
» Pensez à son intérêt avant l'intérêt général. Hein. C'est souvent
le problème. Notre difficulté.
Alors, côté architecte, Alexandre, c'est vrai que vous aussi, vous ressentez une tension qui est palpable, notamment à travers les inscriptions à l'ordre. Hein. C'est ce que vous me disiez notamment, enfin, on va en parler.
Oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai que bon, bah, les architectes sont tout aussi touchés de plein fouet par la crise du secteur. C'est évident. Il y a moins de commandes. Il y a une contraction de la commande sur la ville-centre avec beaucoup d'architectes qui sont présents. Et donc, du coup, on observe dans les inscriptions, en effet, une forme de desserrement, c'est-à-dire des gens qui bougent en Ile-de-France sur des secteurs où il y a peut-être moins de confrères, moins de concurrence. Donc, il y a des recherches de travail. On voit bien qu'il y a une contraction de la commande privée, publique, sur le neuf. C'est très inquiétant. On vient de le dire là sur la question des élections. On a du mal à avoir une visibilité. On a des projets qui, du jour au lendemain, se retrouvent en questionnement complet sur des projets structurants de territoire, qui donnaient une visibilité aux acteurs économiques, à la réponse aux besoins des habitants. Et puis, pour des questions budgétaires, de re-questionnement de budget à la fois global, à la fois local, on voit bien que là, y a une difficulté à se projeter dans l'avenir. Nous, en tant qu'architectes, quelque part, on participe à la construction de cet avenir à travers des faisabilités à la fois économiques, à la fois projectuelles, en équipement, en logement, à l'échelle de quartier, à l'échelle de morceaux de ville et puis de bâtiments. On voit qu'aujourd'hui, il y a une crise. Sur les éléments, je dirais, de l'origine de cette crise, c'est vrai qu'elle est multifactorielle. Elle est à la fois sur les taux d'intérêt, on l'a bien compris. Il y avait certainement une question aussi de corrélation entre le coût du logement, le coût de la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé là-dessus, on le voit bien. Avec ce qui se passe dans le milieu de l'agriculture, on voit bien qu'à un moment donné, on a une capacité à payer chaque mois, on a un revenu. Il y a un moment donné où tout ne rentre pas dans la balance. Donc là, on voit bien qu'il y a une nécessité de réfléchir sur tout ça. Il y a une évolution des modes de vie. C'est vrai que le télétravail a fait basculer beaucoup de choses. Il y a quelque part un re-questionnement de cette cellule intime, qui est le logement. Qu'est-ce qu'on y fait ? On ramène son ordinateur chez soi. L'ordinateur, où est-ce qu'on le met ? Qu'est-ce que ça signifie dans le re-questionnement de cette cellule familiale ? Il y a beaucoup de questionnements sur la rénovation de l'existant. Ça, on le sent. Sur le bureau, sur la rénovation thermique par rapport aux enjeux auxquels on arrive. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Mais bon, on voit des pistes qui sont, en germe. Il faut qu'on les prenne à bras-le-corps et qu'on en fasse de vrais éléments politiques pour retourner le marché. Quoi. Ça, c'est fondamental.
Rapidement, peut-être, on va aborder le sujet des rénovations rapidement. Stéphane, vous, c'est un sujet que vous voyez tous les jours avec la FNAIM et puis même avec Citia.
Tout à fait. C'est tout à l'heure, on était en amont des transactions. Là, on est en aval. Après la promotion, après tout ça, on est sur la rénovation énergétique, la gestion des copropriétés. On sent que c'est un vrai sujet prégnant. Hein. On en entend parler. On a des mesures très coercitives lancées par les pouvoirs publics qui sont à l'envers de toute logique, hein, puisque on interdit aux gens de se loger, puisque rien que sur Paris. Paris, région parisienne, c'est environ 192 000 logements qui sont classés G. Et ça, ce sont les chiffres de l'ADEME sur ce qui est passé après 2021. Donc, si on remet ce 2021 ou ce qui va arriver comme, comme nouveau DPE, c'est juste catastrophique. Donc, on ne va plus pouvoir loger parce que...
Loger, ils sont déjà sortis en 2025, janvier 2025.
Tout à fait.
Les logés qui étaient interdits à la location.
Et avec une imprécision des pouvoirs publics sur la notion de nouveau bail, de renouvellement du bail.
C'est pas clair, ça. On attendait...
C'est hélas très clair.
Enfin, il y avait eu une proposition de loi qui n'a pas été adoptée.
C'est que depuis le 1er janvier 2025, effectivement, les logements qui sont venus en renouvellement, si on est tangé, ils sont déclarés insalubres. Alors, vous pouvez, je prenais l'exemple tout à l'heure, mais vous pouvez aller acheter une machine à laver dans n'importe quel magasin et prendre une machine qui est E, c'est votre choix parce que vous avez un programme qui vous intéresse, mais vous ne pouvez pas habiter un logement où vous savez que vous allez peut-être consommer un peu, mais vous le gérez parce que vous n'êtes pas dans votre logement toute la journée, dans l'absolu, c'est pas bien grave, mais vous êtes à proximité de votre centre de travail, à proximité du centre de vie de vos enfants. Et vous allez devoir quitter ces logements. Ou tout au moins, vous n'allez plus pouvoir les financer puisque les APL ne vont plus être versées puisque le logement est devenu indécent. Mmh. On a créé cette notion d'indécence thermique qui n'était pas du tout l'objet du DPE au départ. Le DPE, c'était une indication, comme sur votre machine à laver. Et les pouvoirs publics l'ont transformé en quelque chose de sale, de mauvais, et donc cette mesure coercitive de devoir sortir les gens. Dans l'absolu. Donc, on est en vraie précarité. Au moment où, justement, on arrête de construire, parce que le logement, ce que vous expliquez, la construction, la promotion, c'était aussi le moyen de loger les gens.
Bien sûr.
Hein, immobilier d'un côté, logement de l'autre. C'est un besoin primaire de se loger. Et donc, on ne construit plus et on sort les gens. Donc, ce n'est pas facile. Et au milieu de ça, on doit effectivement rénover ces logements. On doit rénover ses résidences, ses immeubles. Et on a la pathologie du bâtiment qui a son âge et qui, lui aussi, a besoin d'une étanchéité, a besoin de refaire ses ascenseurs, a besoin de revoir les fluides, les accès et tout ça. Et donc, malheureusement, ce n'est pas la poche ou la trésorerie des ménages. Elle n'est pas extensive. Mmh. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un moment où c'est trop. Et on n'y arrive pas.
Alors, c'est vrai que la loi climat et résilience, elle est tombée un peu au mauvais moment, même si c'est bon pour la planète. C'est vrai que c'était le pire timing. Pierre, vous, alors, qui avez un avis bien tranché, justement, sur le calendrier d'interdiction, les DPE. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à Paris. Comment...
Je pense que je partage cet avis tranché avec pas mal de monde ici.
Tout à fait. Mais comment, comment, à Paris, on peut rénover une passoire thermique? Donc, je parle de Paris intramuros, par exemple. Quand on voit les immeubles haussmanniens, souvent, parfois, ils sont classés. Enfin, voilà, on ne peut pas les rénover par l'extérieur. Comment améliorer sa note?
Vous avez tout dit. Moi, je ne sais pas comment améliorer la note d'un immeuble haussmannien. Il a été conçu et construit à une époque où on ne se posait pas les questions, qui sont les bonnes questions. Hein. Il n'est pas question de ma part de contester le bien fondé des préoccupations climatiques. Mais aujourd'hui, on a une mesure qui est excellente dans son intention, mais catastrophique dans sa mise en œuvre. Effectivement, elle n'a pas été faite pour ça. Et aujourd'hui,
il n'y a eu aucune étude d'impact.
Il n'y a pas d'étude d'impact, il y a des remontées du terrain, nous y avons contribué, mais on ne nous entend pas. C'est vrai que c'est difficile d'aller contre une mesure environnementale, mais la mesure, je n'ai rien à ajouter sur ses effets négatifs aujourd'hui, sauf peut-être à donner mes propres chiffres et mes propres constatations. Sur Paris, depuis le 1er janvier, c'est 50 000 logements qui sont sortis du marché locatif. Et on le voit parce qu'on parle à nos clients. Nos clients renoncent à mettre leurs biens en location parce que c'est 50 000 logements qui sont sortis. C'est le même chiffre, c'est 50 000 euros en moyenne pour mettre un logement aux normes.
Oui.
Les gens n'ont pas les moyens. Les gens n'ont pas les moyens. Et
malgré les aides, hein, parce qu'il y a des aides.
Malgré les aides, mais... et je vais revenir à ça. Malgré les aides, ils n'ont pas les moyens. Et quand bien même ils les auraient, c'est difficile, je vais y revenir aussi. Mais une fois qu'on a dit ça... Ils ne remettent pas le bien en location et pour autant, ils ne le mettent pas en vente parce qu'ils savent qu'il est dévalorisé. Et donc, on a un recul. Pour ça, on est parti de la crise du marché immobilier. La crise du logement, la crise du marché immobilier marchent ensemble parce qu'aujourd'hui, on sort des biens des deux marchés, locatifs et vente. Alors, à Paris spécifiquement, ben, Paris, c'est le Paris d'Haussmann. Ce sont des immeubles qui ont été construits avec des toitures en zinc qui sont une catastrophe du point de vue énergétique, probablement. Avec, d'ailleurs, des matériaux aussi, parce qu'on se, on regarde les pierres de taille des façades, mais derrière, c'est pas forcément une qualité, on va dire, contemporaine. Donc, on a construit des passoires thermiques qui, aujourd'hui, sont détenues par des copropriétés. Donc, décider de faire des travaux dans une copropriété, évidemment, c'est difficile.
Pas toujours évident.
On est en zone architecte des bâtiments de France partout dans Paris. En 25 ans de métier, j'ai dû voir deux ventes où on n'était pas en zone architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France, il ne va pas donner son accord pour qu'une zone par l'extérieur les belles façades haussmanniennes. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? À Paris, on ne peut pas. Indépendamment des moyens financiers qui manquent, on ne peut pas réglementairement se mettre aux normes. C'est pour ça que une de nos pistes de réflexion, c'est d'invoquer d'abord peut-être les spécificités parisiennes pour dire qu'on devrait peut-être essayer à Paris un moratoire, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps peut-être d'avoir un dispositif adapté à l'immobilier parisien qui est en train de mourir.
Bien sûr.
Par cette réglementation.
Et vous parliez des copropriétés, je précise juste que donc, cette obligation de rénovation ne touche que les propriétaires bailleurs, c'est aussi pour ça que... Oui.
C'est-à-dire, ce sont les propriétaires bailleurs ne sont pas touchés aujourd'hui tous ceux qui louent autrement.
Bien sûr, oui. Un petit point, alors on va revenir à la construction, les problématiques liées à la construction en Île-de-France, bon, qui se répercute aussi sur la France entière. Mais là, on fait un focus sur l'Île-de-France. Alors, on a parlé des maires, la problématique des municipales, Bruno. Il y a le prix du foncier, on l'a dit, le prix du foncier qui augmente, qui se fait rare maintenant, avec notamment le dispositif ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Est-ce que vous pouvez me dire les autres facteurs aussi qui rentrent en compte ? Alors,
peut-être juste par rapport à ce que disaient ces messieurs, l'avantage, le neuf a un avantage. C'est qui répond aux
Bien
normes
sûr.
Les plus
ouais.
exigeantes. Et notamment en France, on sait effectivement qualifier de très exigeants les normes qu'on nous impose. Donc à ce niveau-là, le neuf est à un réel avantage par rapport à l'ancien. Mais pour qu'on puisse acheter du neuf dans des zones tendues, il faut aussi petit. On est souvent à secondo accédant et donc il faut qu'on puisse vendre l'ancien. Donc on est chaînés. Hein. De toute façon, on est tous ensemble et on vit tous la même crise. Alors, ce qui procure de la tension sur le neuf, hein, c'est, on l'a quand même évoqué, l'architecte urbaniste qui est à côté de moi connaît bien aussi les problématiques. On a des élus qui ont un problème d'équilibrage de leurs finances publiques et donc qui sont obligés d'être à l'équilibre. Donc, par définition, quand vous venez créer du logement, vous venez créer des équipements publics. Donc, il y a un facteur. Indépendamment du fait de dire le maire ne veut pas construire, il y a aussi un facteur lié à son équilibre économique sur lequel il est obligé effectivement d'être à l'équilibre. Donc il va jouer sur ses investissements, sur son fonctionnement. Et donc ça crée effectivement des difficultés pour créer des équipements publics. Un deuxième élément qui est venu particulièrement compliquer la tâche, c'est qu'en Île-de-France, on a un millefeuille de décideurs qui fait que, par définition, quand vous mettez un permis de construire dans un circuit, il est analysé par tout un tas de personnes, même par des personnes qui ne devraient pas l'analyser par définition et qui donnent leur avis quand même. Moi, j'ai quand même eu sur une déclaration d'utilité publique un architecte des bâtiments de France qui s'en est mêlé. Pas trop le rapport, mais bon, on a demandé l'avis à l'architecte des bâtiments de France, pourquoi pas, qui a donné un avis négatif, évidemment. Mais pour être plus sérieux, on a effectivement, et l'architecte, je pense, le validera. Avant, c'est pas si vieux que ça, il y a une quinzaine d'années pour avoir un permis de construire. On prenait des promesses de vente, allez, 10-12 mois plus tard, vous aviez un permis de construire purgé, vous étiez en capacité de lancer votre opération.
Donc là, le millefeuille administratif,
aujourd'hui, un permis de construire sur l'Île-de-France, et on va dire, quand ça se passe pas trop mal, c'est quasiment 2 ans, et quand ça se passe pas bien, ça peut être 4-5 ans. Aujourd'hui, je lance, moi j'ai des exemples très précis en tête, je lance des opérations que j'ai initiées en 2018. J'ai mis quasiment 7 ans pour les lancer, parce qu'il y a des recours, parce que le circuit administratif, parce que Covid, nouveau maire, on rebat les cartes. On est dans ce schéma-là en Île-de-France. Donc on a vraiment une complexité administrative.
Et on a vu, on a deux exemples. Hein, quand on enlève ce millefeuille administratif, je parle du village des athlètes des Jeux Olympiques et du chantier de reconstruction de Notre-Dame, où il y a une loi spéciale qui est passée, qui est à l'initiative d'Emmanuel Macron. On a vu que ça fonctionnait et que ça allait vite.
Alors, la dernière fois que j'ai fait cette remarque-là au préfet, il m'a dit « mais non, pas du tout. Ouais. On n'a pas fait de loi spécifique. » Alors, pour Notre-Dame, si. Pour les Jeux Olympiques, par contre, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une unité d'action et un objectif commun. Le problème que l'on a souvent dans des instructions de permis, c'est que tout le monde ne partage pas le même objectif.
Tout le monde n'a pas le même, oui.
Et donc, on n'a pas une autorité, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec les préfectures, c'est d'avoir un espèce de médiateur qui nous permet, quand il y a une difficulté. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai déposé un permis de construire sur lequel j'ai eu une autorisation de tout le monde. J'ai eu le permis de construire. On dépose un PCM sur la même base. On change juste le nombre de logements. On nous oppose une interprétation de règlement qu'on ne nous avait pas opposé au PC, de base. Mmh. Parce qu'il y a un interlocuteur qui a changé et qui interprète la loi différemment. Mmh. Donc on a une vraie difficulté, effectivement, dans ces interprétations. En plus, ça ne va pas en s'arrangeant parce qu'on a de plus en plus de chartes, on a de plus en plus d'élus qui... Je rappelle qu'un permis de construire, normalement, c'est la rencontre d'une intention de construire, tout au moins d'une conception, au regard de règles de gabarit, tout au moins. Aujourd'hui, les gens pénètrent dans les logements, vous expliquent comment vous devez construire vos logements, vous expliquent le nombre de logements que vous devez avoir au palier, vous expliquent l'orientation, tout le monde donne son avis. Qu'on ait un échange avec l'architecte quand on conçoit sur la base d'un programme, le promoteur et l'architecte, c'est normal, on est dans la co-conception du projet. Par contre, que... Un élu ou une personne de l'urbanisme rentre dans les plans, vous explique que votre plan n'est pas bon.
Ah oui, d'accord, c'est ce qui se passe.
Ah oui, mais ça, c'est le quotidien des opérateurs, des promoteurs en Île-de-France, et pas qu'en Île-de-France d'ailleurs. Hein. Oui. C'est dénoncé dans toutes les grandes métropoles. Donc on a ce souci de circuit administratif qui nous pose des problèmes. Et ensuite, on a, en plus... Ça crée un autre phénomène, c'est qu'on a aussi beaucoup de recours en Île-de-France pour toutes les raisons qu'on sait. Il y a des professionnels des recours. D'ailleurs, on essaye de se battre contre ces gens-là. Mais le fait d'avoir un enchevêtrement de normes, de règles, crée de l'insécurité juridique. Or, de plus en plus, et les notaires sont bien placés pour voir la difficulté de construire un acte, de plus en plus, on nous demande de vérifier de plus en plus de choses. Et dès qu'il y a une insécurité juridique... Évidemment, ça crée un problème aux hommes de loi que vous êtes et représentants, mais et aux promoteurs aussi, bien entendu, puisqu'on a, nous, une obligation de livrer des logements conformes à la loi. Mais, et donc, ça crée de l'insécurité juridique. Et on arrive aujourd'hui à avoir des recours sur des points, mais franchement... Et donc, tout ça crée de la latence, ça crée des difficultés d'obtenir des autorisations de construire, et du coup, on se retrouve à mettre 9000 logements à la vente sur l'Île-de-France, ce qui est ahurissant. Mmh. Donc, pour moi, simplification des normes, on a poussé aussi le balancier très très loin sur la réglementation. On nous oblige aussi pour des raisons...
Donc vous parlez de la RE 2020, enfin maintenant la RE 2028, c'est ça?
Alors, je serais réservé parce que, bien entendu, tout le monde partage en tant que citoyen l'objectif qui est de dire il faut construire des logements les plus économes possibles.
Alors après, il y a la France, je crois qu'on est les leaders là-dessus.
On est les champions d'Europe, on est les champions de l'Europe. Donc quand on est champion de l'Europe, on doit pas être loin d'être les champions du monde. Mais je connais pas.
Personne ne l'est d'ailleurs. Mais est-ce qu'on va pas trop loin justement dans les...
Alors on a une discussion au niveau de la FPI effectivement pour faire entendre à nos aménageurs ou aux villes qui alors le problème c'est que maintenant dans les PLUI vous avez des gens qui inscrivent des obligations. C'est-à-dire qu'ils vous poussent, je ne citerai pas les régions, ce n'est pas la peine,
vous pouvez écouter.
Mais il y a des PLUI où on vous dit l'application de la RE 2025, vous, ce n'est pas RE 2025, parce que moi, sur mon territoire, je veux qu'on soit en avance par rapport aux normes, donc c'est 2028 ou 2032. Et vous vous retrouvez avec des applications de réglementation qui sont inscrites dans le PLUI. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est même pas une question de négocier ou pas négocier, c'est que vous ne pouvez pas y échapper. Et on se retrouve effectivement avec des obligations de construire des immeubles dont l'industrie, entre guillemets, qui nous permet de construire ces immeubles, parce qu'on parlait tout à l'heure de prix et de capacité d'acheter. Effectivement, le pouvoir d'achat immobilier a diminué grosso modo de 25% depuis 3 ans. Et donc tout ça surenchérit le prix. Il y a un autre élément sur lequel la FPI se bat, c'est la typologie de ces logements. Parce qu'à travers les chartes, on nous impose souvent de faire des grands logements. Or, quand vous regardez la démographie en Île-de-France, monsieur citait tout à l'heure, maître Tarat citait tout à l'heure les habitants parisiens. Hein, soit vous êtes dans le locatif social, soit vous avez de gros moyens sur Paris. Tout au moins, la classe moyenne a été chassée de Paris. Je ne veux pas faire de politique, mais c'est simplement factuel. Aujourd'hui, en Île-de-France, les couples qui viennent en Île-de-France, ce sont des jeunes couples avec peu d'enfants, généralement. Or, on nous oblige dans les chartes à créer des, à avoir des typologies qui sont en moyenne autour du T3, ce qui veut dire qu'on a des grands T4, des grands T5, et on ne trouve pas la population pour acheter ces logements. C'est parce qu'effectivement, en valeur absolue, bah, ça fait des masses, on le disait tout à l'heure, ça fait des masses importantes, et donc le pouvoir d'achat étant amputé, bah, vous n'arrivez pas à vendre ces appartements. Mmh. Donc ça crée toutes ces chartes, ces normes, qui sont sur le fond, qui sont, on pourrait dire, positives, mais qui sont cumulées les unes avec les autres, sans tenir compte à la fois du bassin sur lequel on se trouve, à la fois du coût, et etc., font qu'on a des logements qui sont plus abordables et donc des opérations qui sont plus qualifiables.
Alors Alexandre, côté architecte maintenant, là on a parlé de la co-conception, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le point de vue des architectes ? C'est vrai que là la tension elle est là, on l'a dit, la construction s'enfonce, comment vous percevez
Par rapport à ce qui vient d'être dit là à l'instant la complexification des systèmes de validation qui fait qu'on a une inertie de plus en plus importante, on a le temps qui devient notre pire ennemi la fois dans l'acte de construire, mais aussi dans la gestion d'une entreprise, tout simplement pour payer les salaires à la fin du mois, hein, quand vous avez le doublement du temps sur un permis, sur un projet, ça devient vraiment impossible à tenir, ça on est complètement d'accord. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est cette sorte de inadéquation entre les règles qui sont données à l'échelle d'un logement et les règles qui sont données à l'échelle d'un bâtiment et d'un îlot. Il n'y a pas de synchronisation entre ces exigences. Et nous, en tant qu'architectes, architectes urbanistes, on doit assurer l'intégrité et la qualité des patrimoines construits. On peut comprendre à certains moments qu'une forme de surdensification qui participe à une dévalorisation d'un îlot un peu plus large peut poser question, et je pense qu'il y a une part de la défiance à la fois des élus, à la fois des habitants, qui est venue peut-être de certaines opérations ponctuelles qui ont été trop loin sur cette densification. À un moment donné, il faut faire notre mea culpa. Il faut revenir sur ces bases même de l'intégrité des patrimoines construits, de la solidarité entre les patrimoines existants et puis les patrimoines neufs. Il faut recréer un new deal sur cette logique-là. Et voilà, se dire, l'architecture d'utilité publique, on en est tous garants là autour de la table, dans chacun des professionnels qu'on est. Par contre, imaginez qu'on refonde une nouvelle manière de construire de manière plus solidaire, ça, à mon avis, c'est vraiment le challenge. Et c'est dans ce cadre-là que, quelque part, on n'opposerait pas, nous, l'idée que la construction neuve ou la valorisation d'un bien serait opposée à l'idée qu'on puisse répondre aux enjeux environnementaux. Ça, on entend bien la complexité dans le tissu haussmannien, ça c'est clair. On a des façades classées sur lesquelles on ne peut pas travailler. En même temps, le bâtiment haussmannien, c'est un bâtiment qui a beaucoup d'inertie, qui a prouvé durant le siècle dernier sa capacité à évoluer. Peut-être qu'on ne change pas toutes les façades, mais sur les menuiseries, on peut avoir un vrai travail à faire. Par contre, c'est clair que si je demande à chaque appartement de changer sa menuiserie avec sa propre logique, on va être sur des facteurs x2, x3, x5 en termes de prix. Si je commence à mutualiser ça à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un îlot, avec une logique d'appel d'offres, de mutualisation, de détail, où là, je vais vraiment assurer mon bon thermique, je vais éviter d'avoir un rapport entre l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air qui va pas se faire au bon niveau. Et puis même parfois, je vais trop étancher et puis je vais mal ventiler. Et donc, du coup, je vais avoir, ce que vous disiez tout à l'heure, des désordres internes qui vont s'accentuer. La connaissance de ces patrimoines historiques, on l'a. La connaissance des systèmes structurels, on l'a. Par contre, à mon avis, on n'agit pas au bon niveau. On n'agit pas au bon niveau parce qu'on est trop fragmenté. On a trop de réglementations qui ne se synchronisent pas les unes avec les autres. On n'a pas les financements qui sont mis au bon niveau de ce qu'il faudrait faire. Le fait de se dire qu'à un moment donné, une surélévation, ça peut être une bonne idée, dans certains cas, oui. Dans certains cas, non, pas du tout. parce que Paris est très dense et que prendre du soleil à des habitants qui ont acheté un appartement en R+2 dans un fond de cour où ils ont accès à un petit jardin mais où ils ont moins de soleil, bah voilà, ça devient compliqué. Le droit au soleil, c'est un acquis aussi important aujourd'hui que le bâti tel qu'il est. Donc c'est là où on pense, nous, que... et merci beaucoup d'ailleurs de cet échange, voilà, où l'Ordre des architectes est là en représentant les 14 000 architectes, les 10 000 entreprises d'architecture, encore une fois en difficulté aujourd'hui. Mais on se dit que voilà, il y a peut-être une manière de rebondir et de recréer une nouvelle manière de construire et, d'inventer le patrimoine de demain.
Donc pour vous, il faudrait une solidarité entre les filières peut-être et des échanges peut-être aussi plus fréquents.
Plus d'échanges, c'est sûr. Ouais. Plus d'échanges. On voit, nous, on est dans notre profession, dans l'obligation d'une formation continue. On assure ça au sein de l'Ordre. On voit des écoles qui sont aussi dans une nécessité d'économie de moyens. C'est une demande forte du ministère, donc ce n'est pas évident à intégrer ça au sein de chacune des écoles. Encore une fois, nous, au sein de l'Ordre, notre idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, peut-être que les formations, peut-être que le lien entre le monde professionnel, le milieu étudiant doit plus se renforcer, que ça peut être une économie qui peut être bénéfique pour tout le monde à terme. Et puis le fait d'imaginer que voilà, l'architecte des Beaux-Arts du siècle dernier qui imagine le volume sous la lumière, c'est peut-être l'histoire d'un autre siècle, mais qu'aujourd'hui, c'est plus cette question de processus, de solidarité entre les métiers, où on va trouver les bonnes économies, à la fois dans la matière, à la fois dans les coûts. C'est là où ça se passe et c'est là où il faut qu'on se forme ensemble, quoi. Pas seulement les architectes tout seuls, ensemble.
Et voilà, faudrait se réunir plus souvent en tout cas. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct et qu'on prendra le temps d'y répondre. Les intervenants prendront le temps d'y répondre à la fin de ce club notarial. Dites-moi, Bruno.
Oui, je voulais juste préciser. On a créé l'alliance. Cette crise du logement, au moins cette grosse difficulté, ce gros accident de l'histoire du logement, fait qu'on a été dans le sens de ce qu'évoque monsieur, on a créé l'alliance pour le logement. Ouais. Et donc, dans cette alliance, on a les représentants qui sont autour de la table, et notamment les architectes. On ne dissocie pas...
Pour faire plus de poids auprès des politiques. Hein,
mais non, parce que, comme le disait monsieur, on est une chaîne. Ouais, et donc, effectivement, il n'y a pas de raison que... Tout le monde, il n'y a pas de... La volonté, c'était de parler de logement. Ce n'était pas de parler uniquement des architectes ou des promoteurs ou des notaires ou des agents immobiliers ou des administrateurs de biens. C'était de dire on a une difficulté sur produire du logement et comme on le disait, c'est multifactoriel. Ouais. On a créé ce millefeuille. On a plein de bonnes idées en France, mais dans leur traduction réglementaire ou législative, ça pèse vraiment sur les... Et on se retrouve, comme disait monsieur, avec des incapacités à mettre en musique. Le fonctionnement intérieur des logements par rapport à, aux règles d'urbanisme extérieur qui font le gabarit du logement. Donc on se retrouve, on est, vous comme nous, par moments perdus sur la conception de nos logements.
Et oui, ça, c'est quand même... cette question de la réhabilitation thermique, on ne peut pas imposer une charge à une copro, à des habitants, sans avoir une certitude de la valeur derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est une charge qui va permettre de valoriser un bien au bon niveau dans son intégration urbaine, paysagère, dans la plus-value que je donne à l'habitabilité de mon logement, ou est-ce qu'au final, je me rends compte que je vais perdre de la surface, je ne suis pas assuré de ma garantie à l'étanchéité à l'air, vous voyez, on est dans ce moment d'incertitude où il faut vite lever les doutes, vite.
Et encore, nous avons la chance d'être en région parisienne avec un prix soutenu. Transposer le problème, parce que le problème, il est en France, partout. Dans certaines communes, je pense à des... Je ne vais pas stigmatiser, mais vous allez à Maubeuge, vous allez à Sedan, où pour 70 mètres carrés, vous avez un logement qui vaut 30-35 000 euros. Le coût de rénovation énergétique, il n'est pas beaucoup différent des chiffres qu'annonçait Maître Tarat tout à l'heure. Et pour autant, ce n'est pas l'addition du prix au mètre carré plus le prix de la rénovation.
Bien sûr.
Donc on bloque. Ouais. Et là, on est sur des problématiques de réels de logement. Là, on n'est pas dans « je fais de la spéculation, c'est de l'immobilier », tout ça. Non, il faut loger ces gens.
C'est là où on se rend compte que la rénovation thermique, elle ne peut pas se limiter à mettre un isolant sur une façade ou à changer une fenêtre pour réinventer une architecture.
Voilà,
il faut que ce soit un sujet d'architecture et de valeur, de surface, de mode de vie.
Maître.
C'est beaucoup le problème, en fait, de toutes ces questions-là. C'est que c'est bien. On n'a pas attendu aujourd'hui pour se parler, d'ailleurs. Et effectivement, on a bien conscience des difficultés. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui avons les règles. Et que les règles dans ce pays, elles sont beaucoup faites au coup par coup. On a en ce moment un projet de loi sur la copropriété, on a des propositions de loi sur la réversibilité, sur Airbnb, tout ça. On a des sujets ponctuels en vrac. Le DPE, c'est un sujet ponctuel. Et on ne pense pas en global. On ne pense pas en transversal. Et c'est le vrai problème. Donc c'est sans doute notre rôle aussi de faire remonter ce message. Mais il faut changer la culture de ceux qui décident dans ce pays.
Donc une politique plus globale, pérenne.
Une politique plus globale, plus pérenne, avec peut-être une plus grande hauteur de vue, et puis peut-être écouter un petit peu le terrain aussi. Là, quand un architecte nous dit, ça sert à rien de demander à la vieille dame retraitée qui a quelques chambres de bonne d'isoler, d'ailleurs de mettre une isolation intérieure et de ne plus pouvoir louer parce que c'est une passoire thermique, mais de ne plus pouvoir louer ensuite parce qu'avec l'isolant, ça fait moins de 9 mètres carrés. C'est un exemple idiot, mais c'est un exemple.
Ça n'empêche qu'il faut le problème de la chaleur du toit.
Il faut le
régler, mais est-ce qu'on le règle sur le toit?
Il faut le résoudre.
Ou est-ce qu'on le règle dans le logement? C'est ça la question, quoi.
Il faut résoudre le problème, mais c'est pas en demandant au bailleur privé, qui est complètement ignoré d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, qui est complètement ignoré de nos pouvoirs publics. Quand on parle aux pouvoirs publics de logement, ils nous répondent logements sociaux. Il n'y a pas que ça. Alors, tout à coup, ils transposent le modèle.
Logement intermédiaire, depuis peu.
Oui, logement intermédiaire. Et on voit que dans la psychologie des gens, comme c'est le point de départ, en fait, ils acceptent, quand on parle du parc privé, ils acceptent de nous parler des bailleurs institutionnels.
Ouais, bien sûr.
80% des bailleurs privés sont des personnes physiques. Mmh. Et 75% de ces personnes physiques ont plus de 50 ans.
Mmh.
C'est pas... Des capitaines
d'industrie. Et ont en moyenne 1,1 bien immobilier.
Absolument.
Parce que c'est vrai qu'il y a un peu une vision manichéenne hein, des propriétaires, on va dire les méchants propriétaires richissimes. Et ce n'est pas le cas.
Il faut arrêter de penser effectivement en niche fiscale, etc. Ouais. D'ailleurs, on a compris.
Bon, il n'y en a plus de toute façon. Le Pinel, c'est fini.
Mais il faut arrêter de penser en niche fiscale. Il faut penser en intérêt public majeur d'assurer le logement dans ce pays. Le logement, parce que c'est là que les gens habitent, c'est un droit de l'homme. Et puis, c'est aussi une activité économique importante. Donc, il y a un enjeu principal, majeur dans notre pays. Et il faut penser que ceux qui y mettent la main, ils agissent dans l'intérêt général.
Bien sûr. C'est l'UNPI, l'Union qui défend les propriétaires, l'Union nationale, qui dit que c'est un devoir du citoyen quand on est propriétaire.
Absolument.
Voilà, on loge des gens.
Absolument.
Je trouve ça assez intéressant.
30% des personnes logées par des bailleurs privés sont éligibles ou seraient éligibles à un logement social. Donc, le logement privé... est un vrai, c'est pas un accessoire.
C'est une solution.
C'est une solution. Je parlais de lueur d'espoir parce que Madame Létard, il y a quelques jours,
a déclaré qu'elle travaillait. Il y avait une mission
qui est en cours.
Il y a quelques pistes étudiées.
En matière politique, c'est souvent le moyen d'enterrer les choses, hein, créer une commission ou mettre une
mission. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup d'émissions.
Il y a une volonté. Il y a une volonté. Faut qu'elle dure assez longtemps pour être mise en place. Ce qui est un vrai problème, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Le problème du logement ou de l'immobilier en France, c'est la durabilité. C'est que les gens passent, les politiques passent, comme ce sont eux qui font la politique du logement et qu'ils n'écoutent pas assez le terrain. Eh bien, on commence quelque chose, on s'arrête, on reprend autre chose et on cumule des législations.
C'est même pire que ça. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé avec le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est devenu rétroactif. Donc, ça veut dire que les investisseurs qui avaient fait le choix, par exemple, il y a 5 ans, de prendre ce dispositif, aujourd'hui, on leur dit, les loyers que vous avez perçus depuis 5 ans devront être réintégrés dans la plus-value. Enfin, c'est quand même aberrant de voir que on n'encourage pas les Français, c'est ce que vous disiez. Au final, on n'encourage pas les Français à investir dans la pierre alors qu'on a besoin de ces Français, de ces propriétaires particuliers.
Et on ne parle pas...
Ceci dit, on a quand même... J'ai envie de dire, on a la chance d'avoir une ministre de plein exercice qui connaît le sujet.
On n'a plus de plein exercice.
Elle est plus...
Elle est re... ah bon redevenue oui, bon, ministre bah, délégué. Faut suivre.
Mais en tout cas, on a une ministre qui connaît le sujet et qui effectivement nous a demandé de réfléchir au statut du bailleur privé parce que effectivement, tout le monde a conscience que c'est un vrai rôle sociétal qui remplit, puisque comme vous le disiez, tout le monde ne peut pas être en logement locatif social, hein, par définition. Donc, et on n'en produit pas suffisamment, et ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, hein, même pour la société, ce n'est pas souhaitable, donc il y a un vrai rôle. D'ailleurs, à ce titre-là, je rappelle, mais je pense que nos auditeurs le savent, c'est que le promoteur privé réalise 50% de logements sociaux sur l'Île-de-France. Hein. Mmh. Donc quand on est à l'arrêt, la production de logements sociaux s'arrête également. Mais sur le statut du bailleur privé, on a bon espoir, en tout cas on le souhaite tous, c'est qu'il y ait effectivement le rôle de ce bailleur privé personne physique qui soit, alors sous une forme ou sous une autre, mais qui soit considéré pour jouer son rôle. Parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que effectivement tout le monde, l'État ne fait pas d'analytique, hein, il raisonne en budget et en recettes et en dépenses, oui. Donc il ne fait pas d'analytique. On a essayé à plusieurs reprises de leur prouver que le Pinel était une bonne mesure fiscale pour l'État, il avait plus de recettes que de dépenses, mais bon, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, donner effectivement une objectivité à ce raisonnement du bailleur privé, c'est aussi aller dans le sens de la commercialisation plus rapide de nos logements, donc des démarrages plus rapides de nos opérations, puisque il y a encore peu de temps, le bailleur privé personne physique représentait entre 30 et 45% des opérations lancées en Île-de-France. Il y a des opérations en zone d'activité, en zone d'aménagement concerté qui n'aurait pas démarré si on n'avait pas eu ces investisseurs privés de personnes physiques, hein, parce que personne ne voulait y aller. Donc, il y a un moment, elle joue le long terme, elle joue la plus-value à long terme. Donc, il y a aussi un rôle mécanique et opérationnel. Vous parliez du temps. Quand on a un permis, si on peut pas le mettre en œuvre parce qu'on commercialise pas, eh ben ça marche pas.
Alors on va passer à la suite. On va faire un petit point rapidement sur le ressenti justement des Franciliens, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. C'est une étude, un baromètre très intéressant puisqu'il a été réalisé sur 11 000 personnes, donc c'est assez important. Ça a été réalisé par Aris Interactive à la demande de Procivis. L'envie de devenir propriétaire est encore là. Ce chiffre assez marquant, 67% des franciliens locataires, donc non propriétaires, souhaitent acheter leur résidence principale. C'est 7% de plus que la moyenne nationale. Quand on voit ces chiffres, maître, vous qui accompagnez, on va dire, ces locataires qui deviennent propriétaires, c'est assez marquant. On voit que les Français, on a l'habitude de dire qu'ils ont une pierre dans le ventre. Les Français, les franciliens aiment la pierre, veulent devenir propriétaires.
Absolument, et ça reste vrai. C'est d'ailleurs peut-être un des éléments d'explication du fait que les prix n'ont pas tant baissé que ça, les courbes qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'il y a encore une demande soutenue à Paris. Il y a encore des acteurs qui sont là, prêts à payer le prix. Et puis c'est peut-être aussi cet espoir qu'on peut avoir sur la situation actuelle, que finalement, on assiste à un attentisme. Ce sont des gens qui voudraient acheter, qui ne passent pas le pas, parfois pour des raisons objectives, parfois...
Et alors justement, 44%, on apprend dans ce baromètre, 44% pensent que c'est un mauvais moment pour acheter et 47% pensent que c'est un mauvais moment pour vendre. Donc là, c'est côté propriétaire. Et on voit à travers ce baromètre qui est très intéressant qu'il y a notamment des incertitudes, des freins. Il y a le budget. Et alors, ce qui est assez marquant aussi, c'est concernant l'absence de connaissances. Alors, 49% des franciliens connaissent le prêt à taux zéro. Donc seulement 49%. Ça veut dire que 51% ne connaissent pas le prêt à taux zéro. 57% ne connaissent pas MaPrimeRénov. On parlait des travaux de rénovation énergétique. Alors, parfois, elle n'est pas suffisante, mais vous voyez, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une méconnaissance des dispositifs, des aides, des dispositifs pour permettre l'accession. C'est terminé, mais 34% seulement connaissaient le Pinel. 34%. Comment vous expliquez ça? Pourtant, je sais que chacun dans votre métier, dans votre secteur, vous communiquez sur ces dispositifs. Comment vous expliquez Stéphane, qu'il y ait une telle méconnaissance?
Peut-être une piste, c'est que justement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à savoir peut-être que on parle beaucoup de simplification, mais on en parle, mais on le fait peu. Peut-être que moins de mesures, mais des mesures plus claires, seraient plus faciles à expliquer, tout simplement. Et puis, il y a un autre facteur. J'ai commencé à évoquer la sociologie des propriétaires investisseurs, donc ce sont plutôt des personnes un peu plus âgées. quand on vous dit MaPrimeRénov', il y a tout sur Internet, mais quand vous voyez l'âge moyen d'un bailleur privé, c'est pas forcément quelqu'un qui passe sa vie sur Internet.
Donc il y a un souci à ce niveau-là, en tout cas, les canaux d'information, en fait, c'est ce que vous nous dites, les canaux d'information ne sont pas les bons, en tout cas, Stéphane ?
Ils ne sont pas les bons, je vous rejoins complètement. L'information qu'on y trouve, d'ailleurs, sur Internet, n'est pas toujours la bonne, parce qu'il y a à boire et à manger, hein, et parfois il est difficile d'arriver à faire la séparation de ce qui est bon et pas bon. Et puis, il y a un problème de sécurisation de toutes ces aides. Il y en a trop, ou mal, mal indiqué, mal
ça
fléché.
Ça change beaucoup.
Ça change beaucoup. Hein. Il n'y a pas de sécurisation. Mmh. Donc, ce qu'on peut évoquer à un moment ne sera plus vrai 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. On le voyait sur la réglementation sur les meublés. Il y a des choses qui évoluent, les barèmes, et ça, c'est perturbant. C'est perturbant parce que quand on va vers l'achat d'un logement, on a besoin de stabilité, de sécurité. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à des vrais professionnels, un notaire, un agent immobilier, prendre un architecte, choisir un promoteur qui existe, s'assurer que tout le monde est bien assuré et autres. Donc, on peut sécuriser toute la chaîne. Ce qu'on ne peut pas sécuriser, c'est ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire tout ce qui dépend de l'État qui va revenir allègrement et sans difficulté. On va décider de bouger les droits de mutation. Donc, ça change sur un calcul. Hein.
Bien sûr.
Nous, on voit sur les propriétaires...
Alors, ça sera à la demande de chaque département. Enfin, chaque département décidera. Je rappelle que c'est une augmentation sur 3 ans.
Il ne faut pas se leurrer. On a supprimé la taxe d'habitation, ce qui était demandé par personne, d'ailleurs, hein, puisque c'était plutôt un impôt assez bien accepté.
Tout à fait. Voilà. Il n'y avait pas trop de réticence.
Donc, on a supprimé cette taxe d'habitation. Il faut bien retrouver du financement. Les communes, les collectivités locales, elles manquent cruellement de financement.
Bien sûr.
Elles ralentissent des projets, elles arrêtent des projets, les projets qui explosent parce que les enquêtes augmentent et donc il faut de plus en plus de diagnostics de ci, de ça et ainsi de suite. Donc les projets des collectivités locales explosent, les financements diminuent, donc il faut bien aller rechercher de l'argent. La taxe foncière, sur Paris, 60% en 2 ans, c'est... Alors évidemment, elle n'était pas très élevée non plus. Mais quand même, 60%. Donc pour un propriétaire ou pour un investisseur qui veut demain aller chercher, qui ne va pas obligatoirement aller chercher de la plus-value, mais qui va chercher une rentabilité, une sécurité de son patrimoine, avoir un marché qui peut parfois être baissier, s'arrêter... une rentabilité qui diminue... qui s'arrête, voire qui est négative une fois qu'on a tout cumulé. On parlait de travaux tout à l'heure en copropriété. Les charges de copropriété ont augmenté. Hein. La FNAIM Grand Paris publiait son baromètre, c'est plus de 10% d'augmentation des charges de copropriété. C'est pas neutre.
Bien sûr.
Sur cette question de l'explosion, enfin la fragmentation un peu des processus de financement qui permettent pas d'y voir clair et qui fluidifient pas le marché, du coup, c'est important de noter qu'avec l'association Grand Paris Climat, donc qui a été fondée par la métropole, il y a cette idée que les agences locales de l'énergie puissent se concentrer dans une sorte de guichet unique. Nous, au sein de l'Ordre des architectes, avec MaPrimeRénov', on a quand même une liste d'architectes qui sont certifiés MaPrimeRénov', justement pour pouvoir avoir...
Donc RGE, un reconnu garant
voilà,
de l'environnement.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, mais ce que vous dites est complètement vrai. Il faut vite aller vers ce guichet unique qui permet de donner une visibilité claire, d'avoir un interlocuteur unique pour les copropriétés, pour les investisseurs. C'est fondamental.
Dans le neuf, le PTZ est un bon exemple. On a effectivement... On est à moitié étonné que les gens ne connaissent pas le PTZ, puisque quand on voit déjà les conditions qu'il faut remplir en termes de revenus pour y avoir le droit, elles n'ont pas été réévaluées depuis plus de 10 ans. Donc, vous imaginez bien que ça disqualifie un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est aussi un moyen de ne pas distribuer, c'est de faire de l'annonce sans distribuer le prêt à taux zéro. Un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, quand il y avait des taux à 1%, faire beaucoup d'administratifs pour aller chercher un petit peu d'argent, ça n'avait pas de sens. Donc, il y avait aussi ce phénomène. Maintenant qu'on en a beaucoup besoin, et maintenant que ce serait très intéressant, on n'en a pas tant que ça. Alors, il y a des banques qui aussi ont une politique commerciale par rapport à ça. Il faut savoir, il y a des banques qui doublent effectivement le montant du PTZ. Donc, ça peut être...
Oui, certaines le font, c'est vrai. Ouais.
Oui, donc ça peut être... Alors, il faut être un peu curieux, effectivement. Alors, on n'est peut-être pas assez curieux sur ces phénomènes-là. Et puis, il faut être aussi formé, parce que comme vous le disiez, que ça soit nos vendeurs dans les bulles de vente ou les réseaux de commercialisation, il faut aussi qu'ils soient formés à ces évolutions. Et ce n'est pas évident, parce que ça, tous les ans, ça change. Et donc, ça ne crée pas de pérennité dans les financements.
Et d'ailleurs, en parlant du PTZ, donc je rappelle que les banques pourront prêter à nouveau à partir du 1er avril. La ministre du Logement l'a annoncé là, il y a quelques jours. Et donc, si vous êtes primo-accédant, n'hésitez pas, c'est élargi sur tout le territoire et pour tout type de biens. Alors, il y a les questions qui commencent à arriver. On va terminer avec justement vos mesures, messieurs. Quelles mesures il faudrait prendre pour dynamiser le marché, pour faire face à cette crise, on l'a dit, structurelle, conjoncturelle. Je lis une question qui dit un peu ça. Donc, au moins, la question du logement, mais d'ailleurs de l'immobilier et sur fond de crise d'ensemble dont on ne mesure pas la portée en somme, est reconnue comme telle et grave, mais difficile à cerner, comme le souligne Pierre Tarade. Qui et à quel niveau de décision et de partage peut traiter la question ? Vaste question, maître. Quelle mesure, quelle proposition des notaires ?
Quelle proposition, ça c'est un peu autre chose, mais quel niveau, c'est évidemment au niveau alors gouvernemental, sauf que c'est peut-être pas à ce niveau-là en ce moment que les choses vont se faire. Je pense que, je le disais tout à l'heure, si on veut avancer, il faut des mesures d'ensemble prises de façon transversale et en concertation. Peut-être qu'aujourd'hui, le véhicule, c'est plus des propositions que des projets de loi, puisque le pouvoir est repassé au Parlement aujourd'hui.
C'est ça qui marche.
Mais plus spécifiquement, nous réfléchissons. Alors, sur Paris et l'Île-de-France, je l'ai un peu dit tout à l'heure, nous préconisons un moratoire sur le DPE, mais ça, c'est un petit sujet. Après, on a des pistes de réflexion, notamment justement pour desserrer les taux de la rénovation énergétique. On a deux pistes qu'on essaie de pousser depuis un petit moment. En tout cas, la première, qui serait une espèce de Dutreil logement. On prend cette référence parce que elle parle aux gens. Je l'évoquais tout à l'heure, le profil du bailleur aujourd'hui, c'est pardon, je vais prendre une caricature, mais c'est la vieille dame qui a un logement dans Paris, qui n'arrive plus à le louer, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas l'énergie. Et pour chercher MaPrimeRénov' sur Internet et puis pour trouver les fonds et puis qui n'a pas forcément une vision tellement d'avenir, est-ce que l'idée n'est pas de lui permettre à des conditions favorables, comme le fait le Dutreil, de transmettre son logement à la génération plus jeune qui a plus d'énergie et qui voit plus de l'avant? La condition étant bien entendu que le donataire entreprenne les travaux que la donatrice, dans mon exemple, ne pourrait pas prendre. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple qu'on pourrait combiner d'ailleurs, c'est de partager le coût des travaux avec le locataire. Parce que finalement, on demande à l'investisseur immobilier de mettre l'argent avant d'en gagner. Je ne peux pas louer une passoire thermique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le travail ensemble, donc accepter que je puisse louer un bien qui est actuellement une passoire thermique à mon locataire, moyennant une franchise de loyer ou une décote du loyer, ouais, peut-être de 50%, qui permettrait de partager l'effort avec le locataire? C'est le locataire qui fait les travaux, mais il a un peu plus de moyens de le faire puisqu'il me paye moins de loyer dans
très
un premier temps.
Très intéressant, ça, comme proposition. Ouais.
C'est ce sont des pistes de réflexion. Ça mérite d'être creusé davantage parce
bien
que
sûr.
Quand on regarde, il y a plusieurs façons de le faire.
Ouais, ouais.
Mais c'est une piste en laquelle nous croyons beaucoup. Et puis, le dernier point, mais ça a déjà été dit, c'est évidemment, il faut qu'on réfléchisse à un statut du bailleur privé, parce que c'est, enfin, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, c'est un intérêt général.
Alors, même question pour vous. Alors, c'est vrai que Bruno, on évoquait le statut du bailleur privé tout à l'heure. Hein. Vous l'avez dit, ça fait partie des propositions de la FPI. Alors, FPI Île-de-France, FPI fédérale. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus
sur le statut du bailleur
privé.
Oui,
et puis sur ce que vous préconisez, enfin sur ce que vous demandez. En tout cas, on sait que les promoteurs, vous êtes force de proposition toujours. Voilà.
Peut-être un élément déjà qu'on a obtenu, c'est la donation pour pouvoir effectivement acquérir du neuf. Donc ça, c'est quelque chose
à hauteur de 100 000 euros par donataire et 300 000 euros par donateur et 300 000 euros par donataire.
Alors, le récipiendaire des aides peut avoir jusqu'à, par ses aïeux, peut avoir jusqu'à 300 000 euros et c'est limité à 100 000 euros par donataire. Oui. Voilà. Donc, mais, donc, ça, c'est quand même une mesure qui. Alors, pour acheter un logement, soit pour y résider, soit pour le louer. Donc, c'est quand même une mesure que, effectivement. Alors, il faut saluer Pascal Boulanger qui s'est beaucoup battu pour cette mesure avec l'équipe de la FPI.
Après, ça reste quand même une niche parce que le nombre de Français qui peuvent obtenir jusqu'à 300 000 euros de la part de leurs parents ou de.
On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 300 000, mais c'est quand même. Ça rejoint ce que disait. C'est quand même une mesure qui. Alors, c'est vrai que comme ça, dit comme ça, effectivement, c'est une niche, une.
Parce que ceux qui n'arrivent pas à acheter, ceux qui ne peuvent pas devenir propriétaires, c'est ceux qui n'ont pas d'aide de la famille.
Vous pouvez donner 20 000 plus 20 000 plus 20 000, ça fait un apport de 60 000. Donc, quelque part, bon, c'est vrai que quand on donne la borne haute, bien entendu, ça fait beaucoup d'argent. Peu de gens sont capables de donner ces sommes-là. Alors, ensuite, mais c'est quand même quelque chose qu'on a obtenu. Et
ça peut constituer l'apport qui va permettre d'obtenir un prêt.
Exactement.
Tout à fait.
Donc, on n'a pas besoin de financer l'intégralité de l'achat par
Exactement.
La
donation. Exactement. Donc, c'est un pas entre. Alors, cette mesure, elle est transitoire. Elle est jusqu'en fin 2026. Donc, je le dis aux personnes qui nous écoutent, relayer ce message, ça permet effectivement de débloquer des situations. À condition, bien entendu, qu'on ait des aïeux qui aient un peu d'argent à nous confier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien entendu, je pense qu'on l'a. Le statut du bailleur privé, on est tous d'accord. Alors, il faut pouvoir le définir. On travaille sur des pistes. La notion. D'un rôle dans lequel on serait avec un amortissement, un minimum de rentabilité. Tout moins,
alors, c'est ce qui est étudié en ce moment. Hein, Valérie Létard l'a annoncé. Voilà, un amortissement, ce sera à l'étude dans la mission.
Voilà, on est en train de travailler avec effectivement les équipes de Valérie Létard et on y travaille avec un certain nombre d'interlocuteurs qui font partie de l'Alliance. Plus on aura un tronc commun partagé, plus on sera fort par définition sur cette thématique-là. Ensuite, je l'ai évoqué, c'est aussi tout à l'heure la simplification du circuit administratif qui nous permettrait. Alors ça, c'est un vœu pieux, mais tout le monde parle de simplification, donc il faut continuer à insister sur ce débat-là. Et on commence à en mesurer toutes les conséquences maintenant, clairement.
Et je vous laisse terminer, puisqu'après, on va répondre aux questions. On n'a plus beaucoup de temps. Allez-y.
Allez, j'arrête.
Alexandre, rapidement, des mesures aussi.
Oui, puis... donc c'est vrai que juste revenir sur cette inquiétude actuelle. On voit bien que y a moins de fluidité. Est-ce que le marché va se redémarrer? Est-ce qu'on est sur un plateau? Il y a un attentisme, il y a de l'approche des élections. Enfin, je veux quand même réaffirmer que l'idée que le mieux serait de ne rien faire, il faut peut-être éviter ça, quoi. Parce que je le sens un peu en ce moment. Et donc, du coup, pour être dans une force de proposition, on a deux extrêmes. D'un côté, un foncier qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus difficile à mobiliser. Des fonciers qui sont très durs à trouver. De l'autre, une qualité du logement qui n'est pas simple. Si jamais ça se transforme en tension sur le locatif et sur une dégradation de la qualité d'habitat, cette situation, politiquement, elle ne sera pas une solution, quoi. Elle sera encore pire que la situation actuelle. Et puis, entre ces deux dimensions, le foncier rare d'un côté, la qualité du logement de l'autre, il y a une crise de confiance. Là, franchement, il faut repartir du terrain. Il faut prendre des études de cas type. Profitons de l'arrivée des élections. Remettons du vivre ensemble à l'arrivée de ces élections. Prenons des îlots tests. L'État donne des garanties. Il y a un vrai manque d'ingénierie dans les collectivités aujourd'hui qui ont du mal aussi à s'y retrouver dans tous ces éléments-là. Il faut peut-être insuffler une dynamique entre la région, la métropole, l'État d'un côté, les collectivités de l'autre. On prend des projets d'intérêt général et puis on travaille ensemble. Il faut redonner un peu de... Il faut préparer le terrain pour ce qui va sortir là dans les 2, 3, 4, 5 ans.
Alors, il y a une question que j'ai vue passer. On a beaucoup de questions. On va y répondre tout de suite. Concernant la transformation des bureaux. Bonjour, la transformation des bureaux peut-elle être une solution à la crise du logement? C'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette transformation des bureaux. Ce n'est pas toujours évident. Qui peut répondre?
Alors, je peux peut-être commencer. Puis vous, dans le principe, ça dépend de la typologie des bureaux. C'est toujours pareil.
Bien
il y a
sûr.
Eu des générations de bureaux. Quand vous avez la génération des bureaux des années 2000, ils font 18 mètres d'épaisseur pour les transformer en logement, pas simple. Ceci dit, le modèle économique du bureau était simple. On avait un institutionnel qui investissait dans un bureau, il avait un rendement, il avait une perspective de plus-value. Aujourd'hui, vous leur dites vos bureaux sont obsolètes puisque maintenant vous remplissez plus les normes environnementales, donc il faut faire des travaux. On leur dit votre immeuble est obsolète. On a effectivement le Covid qui est passé par là, ce qui fait que les gens travaillent de plus en plus en télétravail. Donc il y a une reconfiguration complète de ce marché. On explique à l'investisseur qu'il va perdre de l'argent s'il vend son bureau pour transformer son immeuble en logement. Alors, nous, on demande à l'État de réfléchir à la question. Il faudra partager la perte par un biais ou par un autre. Et quand on pose cette question-là, on nous a répondu positivement en disant « Ok, on enlève la taxe annuelle sur les bureaux pendant la période de travaux, mais on a créé une taxe d'aménagement. » Donc, ce qu'on a enlevé d'un côté, on l'a repris de l'autre. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est bloquée, sauf à avoir vraiment des gens qui veulent se débarrasser d'un actif. Et là, ensuite, on retombe sur la problématique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un maire, est-ce qu'il est prêt à se transformer une taxe annuelle en une contrainte de d'école maternelle, de personnel d'encadrement des enfants, etc.
Maître, vous vouliez réagir aussi?
Non, enfin, je suis tout moins bien placé sur la difficulté technique, pratique et réglementaire de la transformation. Peut-être le propos, il se trouve qu'à la Chambre de Paris, on réfléchit beaucoup, on réfléchit à ce que sera notre métier en 2040. Et donc, on regarde ces évolutions-là et on a aujourd'hui, la conviction que les mutations qui sont en cours, on n'en est qu'au début et qu'on n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le télétravail, avec les nouvelles façons de travailler, mais surtout avec la baisse démographique qui fait qu'on a moins d'actifs dans les bureaux de toute façon, sans parler des industrialisations, etc. Aujourd'hui, on a trop de bureaux. Il suffit de se promener à la Défense pour se rendre compte. Et donc, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va y avoir de la transformation. Mais cette transformation, elle risque d'être davantage une démolition-reconstruction qu'une adaptation. Et là, je parle à un horizon assez lointain. C'est pas ça qui nous sortira de la crise d'aujourd'hui. Mais il va falloir y passer.
On n'aura pas le choix tôt ou tard. Alors, une remarque que je vais lire. Mettez en place une impulsion fiscale, entre parenthèses, exonération généralisée en cas de remploi dans l'immobilier ou dans les start-up. Vous verrez que les biens reviendront à la vente, le volume augmentera, les primo-accédants aussi, les prix se corrigeront, le marché s'ouvrira de nouveau et ceux qui ne pourront pas acheter trouveront des biens à louer. Commentaire.
C'est une belle vision idyllique. Je ne suis pas sûr que ce soit l'actualité.
Ouais.
Parce qu'effectivement, même si ça rejoint un peu un propos que j'ai pu tenir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a bien compris que l'époque n'était plus aux niches fiscales. Ça, c'est clair et on comprend aussi pourquoi. Pour autant, il faut qu'on revienne sur cette idée que le logement, c'est un intérêt général et national et peut-être que ça fait partie du statut du bailleur aussi ou du propriétaire immobilier. Il faut peut-être effectivement, à défaut d'être incité, ne plus être assommé.
Alors, amélioration du DPE dans un immeuble haussmannien à Paris. J'ai installé une nouvelle chaudière et mis des doubles vitrages. Que puis-je faire de plus pour un appartement au 4e étage sur 6? Alors là, on est vraiment dans le cas précis, le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus,
Alexandre? Il manque le traitement du toit, 30% des déperditions énergétiques, en général, c'est quand même pas rien. Et après, en effet, est-ce qu'on isole par l'intérieur? Si on a des combles habitables, c'est quand même compliqué de perdre de la surface ou de la hauteur sous plafond. Après, il y a une vraie question sur les toitures aujourd'hui. D'un côté, on veut qu'elles soient à Paris inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'autre, c'est des îlots de chaleur, les pires qu'il va y avoir dans les années qui viennent. Est-ce qu'on repeint le zinc en blanc? Ça risque de donner un Paris un peu étrange. Est-ce qu'on arrive à faire des terrasses végétales qui viennent protéger des ensoleillements d'été qui vont être des moments très, très compliqués à vivre?
Ça, c'est une piste intéressante.
Très intéressante, qui a été là sur l'Académie Climat, qui a été testée. Il y a des vraies réflexions avec des coûts qui peuvent très bien être efficaces. Il y a encore une fois une manière d'adapter, de faire quelque chose d'hybride qui réponde à la fois aux besoins et à ces questions d'enjeux climatiques. Après, très clairement, on travaille sur des grosses rénovations là en termes de bureaux ou de logements. Quand on est une copro de 300 logements et qu'on est face à une rénovation, on a un bâtiment qui peut être un peu compliqué, ça peut être très lourd à l'échelle individuelle. Il y a un vrai besoin d'accompagnement. Après, il faut vraiment, sur les questions de rénovation, regarder les façades. Les façades nobles, les façades moins nobles, les façades orientées plein sud, les façades orientées plein nord, on ne peut pas avoir le même traitement. À un moment donné, on peut gagner de la surface à certains endroits pour financer une rénovation. Il faut la mutualiser. Il y a vraiment de l'architecture à faire. Il y a une ville à réinventer en même temps qu'on réinvente le logement.
Allez, rapidement, 30 secondes pour la dernière question. Le moratoire DPE, diagnostic de performance énergétique, Bonne idée, les copropriétaires sont très attentistes et attendent le moratoire pour ne rien faire.
C'est tout maître. Ça. Voilà. On a un sondage, 50% des propriétaires disent qu'ils ne feront pas de travaux. Et dans ma clientèle, je vois bien, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, mes clients, ils arrêtent de louer, ils ne mettent pas en vente pour autant. On attend, on verra, on verra ce qui se passe.
Ça, c'est la pire des choses. Hein.
C'est la pire des choses, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Mais sachant qu'en plus, il ne faut pas oublier que le marché parisien est un marché international, qu'il y a d'autres villes dans le monde qui sont en train d'avancer en Europe. Et à un moment donné, si dans, en 2030 ou 2035, les changements climatiques sont tels que voilà, il va y avoir des revalorisations, des valorisations de biens, enfin, on sera à la traîne. Quoi. Donc là, il faut être très vigilant là-dessus. Quoi.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Le Club Notarial Immobilier touche à sa fin. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission sera évidemment disponible en replay sur le YouTube, je crois, de la Chambre des Notaires du Grand Paris, en tout cas sur le site internet et sur le YouTube. Oui, on me fait signe également. Et puis, je peux vous donner déjà la date du prochain Club Notarial, ce sera le 27 mai. Donc, notez cette date, soyez présents, 11h le 27 mai. Eh bien, merci à vous et merci, bonne
merci.
Journée.
Merci.
Le Club Notarial Immobilier par les notaires du Grand Paris.